en Ile-de-France.
Écoutez IDFM
sur 98FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98FM. Focus. Focus.
98FM.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est sur Focus avec l'équipe. Comment ça va, Farah?
Ça va, Sidi?
Impeccable, ça va.
Aujourd'hui, je suis là. Hein. C'est Mélie qui a pas répondu présent.
Mélie qui est un
il
peu malade.
Il m'attaque à chaque fois.
Il est un peu malade, Mélie. On a une pensée pour lui. Avec Olivier, comment tu vas, Olivier?
Ça va très bien, merci, toi, Zi.
Ça va, nickel, impeccable, impeccable. Et on est avec notre premier invité. On est avec Zizek. Comment tu vas, Zizek?
Ben, bien, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à votre micro.
C'est gentil, en tout cas. C'est gentil d'avoir répondu présent. Donc, Zizek, en fait, t'es là aujourd'hui pour la, justement, la sortie de ton livre, hein.
Oui,
mais avant de parler de ton livre et de cette actualité, on va essayer de te découvrir, de voir un peu ton parcours, ta personnalité, ce que t'as fait dans la vie. Donc, voilà, t'es ancien footballeur, consultant, comédien et écrivain. T'as des multiples casquettes et c'est ce qu'on aime, nous, ici, sur Focus, c'est découvrir, justement, des gens inspirants et qui peuvent inspirer aussi la jeunesse. Et donc, t'es un bel exemple.
Ben merci.
Donc on revient tout de suite, on se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec notre invité Zizek Belkebla.
I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. For you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. You don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see.
De retour sur Focus, nous venons d'écouter le titre de Bobby Caldwell, What You Want to Do for Love.
Excellent, excellent. Et comme on dit, ce soir on est avec Zizek Belkebla. Comment tu vas, Zizek?
Bien, merci, Sidi, ouais.
Nickel. Donc Zizek, comme je disais tout à l'heure, t'es ancien footballeur, consultant chez Canal+, comédien, écrivain. Tu peux nous dire un peu d'où viennent toutes ces passions et comment t'as commencé justement?
D'abord, le football, c'est ce qu'il y a de plus facile quand on grandit dans une cité, comme moi, Aubervilliers, à Gabriel Péri, et voilà, avec des grands frères qui étaient déjà passionnés de football. Et la première activité qu'on apprend à jouer, à pratiquer dans la cité en général, c'est un sport qui est facile à jouer. C'est un ballon et 25 potes. Donc,
exactement.
Comme tout le monde, on a commencé à faire du football au pied des tours. Et ensuite, avec des grands frères qui m'ont guidé et qui avaient aussi cette passion-là. Donc j'ai suivi un petit peu leur parcours.
Et un beau parcours quand même.
Oui, ouais. Finalement un beau parcours parce que aussi ont un beau parcours et moi j'ai essayé de faire un petit peu de faire de mon mieux et d'essayer de m'approcher de leur niveau parce qu'ils étaient vraiment très bons. Et donc je me suis retrouvé à être formé au Red Star et ensuite mon frère est revenu de Saint-Étienne avec mon autre frère du Red Star, ils ont repris le club d'Aubervilliers qui végétait, qui était un petit club dans les années 80, fin des années 80.
Okay.
Et finalement, ils ont monté un super club et presque jusqu'en deuxième division. Et moi, j'étais dans la bonne génération. Donc, j'ai vécu une dizaine d'années formidables.
Avec le FCSM.
Avec le FCSM Aubervilliers.
Et jouer presque en D2. Donc, c'était la division 3, en fait, avant.
Exactement. On était champion de France Groupe Est. Parce qu'à l'époque, la France était divisée en plusieurs groupes. Ouais, et nous, on avait fini premier de notre groupe. Et la seule année où il y a eu les barrages, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a deux ans, ça a repris. C'était en 93. Et nous, on a dû, donc, battre deux autres premiers, deux autres poules. C'était ce qu'on appelle les playoffs. Et on a perdu à Aubervilliers un match qui était capital.
Et donc, je m'en souviens, j'étais jeune, j'étais à bord du terrain et je criais comme ça. Là, c'est bien, tu passes du football justement et après une carrière de consultant aussi, sportif.
Parce que quand on joue au foot et on fait aussi des belles rencontres, on rencontre des journalistes du Parisien, de l'équipe, etc. Quand on a une dizaine d'années de pratique en Île-de-France, on connaît un petit peu tout le monde. Et donc, à la fin de ma carrière, par hasard, j'ai commencé à TF1 recherché parce que Eurosport appartenait à TF1 et on m'a proposé de venir y chercher des nouvelles têtes issues de la diversité, etc. Donc ils m'ont proposé, j'ai fait de 2008 à 2011 sur Eurosport.
Okay.
J'ai eu la chance de commenter la Coupe de France et surtout le match de l'Algérie contre l'Égypte qualificatif pour la Coupe du Monde 2010.
D'accord.
Et le troisième match au Soudan là où c'était très tendu, donc j'ai eu la chance de le commenter. Et après Canal+ et
ils sont venus taper à ta porte.
C'est encore une rencontre. Laurent Jaoui, qui était directeur des sports à Canal+, que je connaissais, qui venait nous voir jouer à Aubervilliers, qui aimait Bell Red Star, donc on se croisait souvent dans les tribunes, etc. Il m'a dit j'aimerais bien. Il savait que j'étais délégué du préfet et il m'a dit ce serait bien que tu reviennes un petit peu dans le foot. Et donc il m'a gentiment proposé de venir commenter sur Canal.
D'accord.
Et au-delà de ça, tu restes quand même un acteur d'Aubervilliers, ça touche quand même au foot, tu restes très lié à la jeunesse à Aubervilliers. C'est quoi un petit peu ton rôle que tu as gardé ici?
Je pense qu'en fait j'ai aucun mérite, c'est parce que encore une fois j'ai suivi le pas de mes grands frères qui ont toujours été fidèles à cette ville. Peut-être aussi parce que mes parents sont arrivés d'Algérie, nos parents sont arrivés d'Algérie dans une cité à Gabriel Péri, c'était l'Eldorado, quand ils ont connu la misère et ils habitaient. Mon père est arrivé à Aubervilliers dans les années 50, au début des années 50, il habitait juste là, juste en face de chez vous, là, du studio, rue David. Il habitait sous une cave d'un restaurant, d'un bar. Et il a fait venir ma mère 11 ans plus tard et c'est là que... Et donc il a eu la chance d'obtenir, c'est ce que je raconte un petit peu
dans le livre.
Ouais.
On va prendre une bonne partie de l'émission justement pour que tu nous parles de ce livre et qui est vraiment touchant, extraordinaire.
Merci.
Et je l'invite tous nos auditeurs à aller le lire.
Donc l'attachement que j'ai pour la ville d'Aubervilliers, c'est un héritage de mes parents aussi, et puis mes frères ont suivi, et puis voilà, on rend un petit peu ce qu'Aubervilliers nous a donné. On a des grandes familles, il y en a eu beaucoup à Aubervilliers, mais il faut reconnaître que dans les années 60, c'était pas facile pour eux, le déracinement, etc.
Et tu l'expliques bien dans le livre aussi.
De faire après laisser les gens
s'imprégner exactement
et s'imaginer un petit peu le contexte de l'époque. Mais
je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont pouvoir se retrouver aussi, tu vois, tous ces gens issus de l'immigration qui sont arrivés justement dans les années 60-70. C'est vraiment un livre en fait qui retrace vraiment l'histoire de Morand et Raoul. Une amitié vraiment fraternelle, on va dire. Donc on va encore patienter un petit peu avant de rentrer dans le
suspense,
dans le vif du
sujet. Mais c'est vrai que c'est marrant, après Aubervilliers, j'ai remarqué on a eu beaucoup d'invités issus de d'Aubervilliers, enfin qui ont grandi ici et qui ont fini par revenir un jour ou l'autre, ou quand bien même ils ont déménagé, ils ont toujours gardé un rôle, un pied à Aubervilliers, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour la ville, pour autre chose. Et on se rend compte que c'est une ville au final qui rassemble quand même et où les gens restent attachés.
Ouais. Et puis c'est aussi sans doute parce que les gens nous aiment aussi et donc on va pas partir parce que on sent qu'on a on a des gens autour de nous qui nous aiment bien, et donc on a envie de faire des choses avec eux, de rester proche d'eux. On n'a pas envie de partir et de tout recommencer ailleurs, alors que il y a tant de choses à faire ici déjà à Aubervilliers, et donc il y a la matière, il y a l'énergie, il y a l'intelligence.
Bien sûr.
Donc on n'a pas besoin de les tout recommencer ailleurs.
Exactement. Et on passe du foot au consulting, t'es consultant,
oui.
Mais t'as une autre casquette aussi. C'est-à-dire que t'es comédien. Moi, je t'ai vu dans des séries, je t'ai vu dans, tu vois. Donc, tu peux nous expliquer aussi le lien que t'as eu avec, enfin, comment ça est arrivé?
Eh ben, ça a commencé. Alors, j'étais, moi, j'ai toujours pensé que j'allais m'ennuyer à jouer qu'au foot.
Okay.
C'est-à-dire que voilà, les gens me disent mais pourquoi t'es pas parti quand Lens est venu te chercher, quand Strasbourg est venu te chercher, et j'ai dit mais parce que j'avais pas envie de faire que du foot. Aujourd'hui, tout le monde rêve de faire que du foot, mais parce qu'il rêve que d'argent peut-être, ouais, et de notoriété. Mais moi, je sentais que si j'allais faire que du foot, j'allais passer à côté de belles choses. Et socialement, moi, j'avais envie d'inventer, d'imaginer, de créer quelque chose avec des gens qui sont de mon milieu. Et en jouant au foot, j'allais rencontrer des gens qui sont finalement là que pour l'intérêt du foot, mais que j'allais laisser plein d'amis de côté. Et donc pourquoi le cinéma? Parce que déjà à la fac, j'écrivais, enfin il y avait des cours de théâtre à la fac, à Paris 8, à Saint-Denis, et j'étais intéressé par ça, de la découverte de la lecture, de l'écriture, okay, etc. Donc j'ai fait des ateliers théâtre à l'université Paris 8. Et voilà, ça m'est toujours resté. Et ensuite, j'ai un pote comédien qui, j'ai tourné dans son court-métrage. Ensuite, je l'ai montré, ma sœur Fadila, qui était déjà comédienne, elle l'a montré à son agent. Son agent m'a dit, ça me plaît bien, je l'aimerais bien le prendre dans mon équipe. Et finalement, je suis allé à des castings comme ça.
Donc c'est toi qui as pris l'initiative, en gros, c'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus comme ça. Tu t'es dit, tiens, pourquoi pas?
Ouais, c'est un concours de circonstances, ouais.
Et tu t'es formé aussi à Aubervilliers, au théâtre?
Non, pas du tout. Non, j'ai jamais. Je voyais mes potes chez Tincel, Fadza Bouyamed, Thomas Pithiot, etc. J'aurais pu aller avec eux, etc. Mais non, j'ai fait de mon côté.
Et on sent aussi une influence forte au niveau de tes grands frères et ta grande sœur. Tu vois, tes grands frères qui étaient eux footballeurs et t'as suivi, t'as pris pour exemple.
Ouais, ouais.
Et d'un autre côté, t'as eu le modèle aussi de ta sœur qui est elle aussi comédienne.
Ouais.
Et donc.
C'est vrai, Sidi, parce que en fait, moi, je reconnais que je suis le dernier, l'avant-dernier d'une famille de 10 enfants. Mmh. Je suis peut-être même l'enfant gâté, le dernier garçon. Après moi, il y a une fille. Et je reconnais que moi, j'ai mes frères, mes grandes sœurs on se sont sacrifiés un petit peu pour notre réussite. Fait quand le premier se sacrifie, il aide le deuxième et puis le troisième, etc. Ouais. Et puis moi j'étais le dernier, donc j'ai profité de tout ça. Ouais, ils ont
et t'as pris l'héritage de ce monde, tout le monde.
Et bien sûr, ouais. Et puis chez nous, petits déjà, on était ouverts sur la culture, sur les livres, etc. On a eu de la chance. Nos parents étaient analphabètes, mais on avait des grands frères qui étaient passionnés par la lecture, le cinéma. Donc ils nous ont pas cloisonnés sur une chose en particulier, que le foot ou que la danse pour les filles, non.
Ouais.
Chez nous, on était ouverts à tous les sujets, etc.
Et je pense, est-ce que tu ne penses pas que c'est ce qui manque un peu justement aujourd'hui à notre jeunesse, en fait, le fait de s'ouvrir un peu, de toucher un peu à tout, comme toi tu l'as fait depuis ton plus jeune âge, toi. Donc
j'ai même l'impression qu'à l'époque de nos parents, c'était encore plus, vu que eux justement ils n'avaient pas connu ça, ils arrivaient, c'était des immigrés, ils venaient du bled, etc. Donc ils voulaient que leurs enfants s'ouvrent à la culture, à d'autres choses. Alors que maintenant que j'ai l'impression que tout le monde est bien implanté, c'est nous, on est la deuxième génération, il y en a beaucoup, leurs parents sont nés ici, et du coup ils ont plus ce réflexe-là de se dire faut découvrir, il faut s'imprégner de la culture française, de la culture tout court.
Tout court. Ouais. Mmh. Et justement dans le livre, c'est bien que t'en parles parce que t'essayes de retracer en fait tout ça, tu vois, les origines, le début justement, l'arrivée des parents d'Algérie. Donc t'avais un besoin justement de retransmettre ce que t'as vécu ou ce que t'as pu vivre justement en tant que jeune.
Bien sûr, en fait, c'est ce que les conseils que je peux donner aux jeunes, c'est d'écouter les parents quand vous avez la chance d'avoir votre papa, votre maman. Mmh. Et ben le témoignage, l'héritage, il faut absolument les écouter. Aujourd'hui, on s'écoute moins parce que la vie a fait qu'on a des téléphones, on a internet, on perd du temps à finalement courir comme un galop frénétique, comme un rat de laboratoire à des choses qui finalement ne sont pas utiles ou importantes dans la vie. Ça, on le comprend quand on a perdu son père ou sa mère. Et donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, soyez, profitez de vos parents, d'écouter bien un petit peu leur témoignage et leur histoire, parce qu'un jour ça va nous servir à nous.
Exactement.
Et ensuite nous on va le redonner à nos enfants.
Exactement.
Alors, t'étais le dernier, du coup t'as bénéficié de toute cette transmission de la part de tes frères et tes parents, du coup c'est un peu un renvoi d'ascenseur et un message que tu veux transmettre.
La chance qu'on a eue nous, c'est qu'on a eu des parents aimants et un alphabète et qui nous faisait confiance. Des fois, on les arnaquait parce qu'on disait, papa, j'ai eu un 18, en fait, qu'on avait eu un qui savait pas lire, ouais. Il savait pas écrire.
Mais tu le reconnais, quand même.
Aujourd'hui, on a honte, tu vois, d'avoir fait ça. Et finalement, heureusement qu'on a un petit peu réussi. On a fait un minimum d'études qu'il fallait faire et trouver du travail, etc. Mais voilà, il faut
transmettre.
Ouais, il faut d'abord écouter, savoir d'où on vient, le parcours de nos parents, la difficulté dans laquelle ils sont arrivés. Et c'était pas dur, c'était dur il y a 60 ans, mais c'était pas plus facile aujourd'hui pour les parents. Et il faut leur simplifier la tâche. Et simplifier la tâche de ses parents, c'est les honorer, leur faire plaisir et essayer d'avoir un comportement ou un parcours de vie réussi. Voilà, être heureux dans ce qu'on fait et pas les rendre malheureux. Et après, moi, j'ai de la chance, ouais, comme je dis tout le temps. Voilà, peut-être que si moi j'étais l'aîné, j'aurais fait rater les autres. Et finalement, j'ai eu de la chance d'avoir un aîné et des aînés qui
exemplaire,
qui m'ont pas raté.
C'est bien sympa à toi de jouer le rôle du grand frère, justement.
Ouais, c'est pour ça que quand je parle aux jeunes, etc., je leur dis, après, ça percute ou ça percute pas, mais c'est pour ça que quand on est d'Aubervilliers, on a une histoire d'Aubervilliers, etc., on a cette légitimité à parler à des jeunes. Moi, j'ai donc club de foot, etc. Ils disent, bon, il n'est pas là pour lui, parce que s'il avait voulu, il aurait bien été professionnel. Mon frère Karim, il avait tous les grands clubs de France. Mon frère Youssef est parti à Saint-Etienne. On est tous là, à Aubervilliers, aujourd'hui, alors qu'on aurait pu faire des parcours personnels. Et finalement, on ne l'a pas fait. Donc là, les gens reconnaissent et disent, ouais, mais on va les écouter. Et finalement, on a de la chance, parce que depuis 30 ans qu'on a le club, et ben on fait réussir tes gamins. Finalement.
Exactement.
Pas que dans le foot, réussir dans le foot. Mais des éducateurs, formation, ça devient des entraîneurs, c'est un parcours de formation.
Et puis il y a certaines valeurs aussi qui sont dégagées, qui sont inculquées aussi au sein du club.
Bien sûr, parce qu'on ne veut pas des entraîneurs ou des gens qui viennent raconter des bobards. On veut juste des gens qui se mettent au niveau de la difficulté des enfants, des parents, des souffrances. Et on a aussi une oreille attentionnée, on est à l'écoute des parents, etc. Donc on veut pas forcément sortir des joueurs, etc. On s'en fout. Nous, dès qu'ils sont bons, on leur dit, bon, allez, partez ailleurs.
C'est une vraie ambition pour le quartier, même au-delà du sportif, en fait.
Ouais, maintenant, si on parle sur le foot, mais c'est vrai que on n'est pas un club à rayonnement, élitiste.
D'accord.
Nous, on a barré l'élite, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la famille. Quand t'as réussi ces trois choses-là, ben après, ton parcours de vie, normalement, il a 90% réussi. Après, c'est toi, c'est là, peu de chance, etc. Mais voilà, avec ce triptyque-là, je pense que tu peux voyager dans la vie.
Je disais qu'on te découvre justement là à travers ton parcours, et nous sur l'émission Focus, on aime bien aussi découvrir nos invités à travers la musique. Et donc là, on va te lancer un premier extrait justement des musiques que tu as choisies, et puis on reviendra avec toi pour nous dire un peu qu'est-ce que ça te fait ressentir justement. Jam.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Bellière, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens. Je m'en lave les mains. Lave les mains. Lave les mains. Lave les mains.
Je disais qu'on revient justement sur ce morceau. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire qui c'est déjà?
Ben c'est Alain Bachung, okay. Et pour moi c'est une des plus belles chansons françaises. Voilà, il y en a quelques-unes et celle-là m'a marqué. J'ai mis des années à comprendre un petit peu ce qu'elle voulait dire, parce qu'elle est longue et on sait pas, il se perd dans un petit peu des personnages. Ouais. Et le refrain là que vous avez passé, la nuit je mens et je me lave les mains, etc., etc. C'est l'histoire d'un mec qui est complètement perdu, il sait pas où il va lui-même et qui se raconte des histoires aux gens. Et finalement, en fait, c'est pour dire que voilà, il faut s'auto-centrer, il faut se concentrer un petit peu sur soi et de rester focalisé sur le bien, oui. Et etc. Et cette chanson, quand je l'écoute, elle me...
Ça se voit, en fait, en tout cas, on parle avec émotion.
Je suis ému, ouais, je suis ému.
Non, mais c'est bien.
Bon, il fallait en choisir une. Et La nuit, je mens, pour moi, c'est voilà, c'est Alain Bachung,
c'est qui, ouais, c'est un grand chanteur français.
Ouais.
Eh ben, écoute, on va se faire un deuxième extrait, on revient tout de suite.
S'embrouille avec maman, ça va pas en ce moment. Les soucis t'as pas la porte, papa va taffer quand il sort. Papa s'embrouille avec maman, ça va pas en ce moment. Les soucis t'as pas la porte, papa va taffer quand il sort. Dors petit, dors petit, dors petit, dors petit, dors. Il n'y a rien à faire dehors.
Ben, il n'y a pas un vieux. Après Alain Bachung, c'est Jules. Et pourquoi? Parce que cette chanson, quand je l'écoutais la première fois, elle m'a évoqué des situations que je peux croiser avec des enfants au foot, okay, ou ailleurs dans la rue. Et voilà, je suis vraiment très très vigilant sur la relation des enfants avec leurs parents.
D'accord.
Et ça, c'est depuis 2010 où j'ai arrêté ma carrière de footballeur en 2010 et j'ai commencé à mettre un pied dans les jeunes, à aller voir un petit peu ce qui se passait chez les jeunes. J'avais envie de rendre un petit peu ce qui m'avait été donné. Et quelquefois, il m'est aperçu de voir des enfants malheureux.
Ouais.
Et donc c'était ça qui me je fais vraiment très très attention aujourd'hui aux éducateurs que je recrute, d'être vraiment vigilant à la regard d'un enfant, à un mot et à une situation, comment il peut réagir dans un exercice, un atelier. Et c'est parce que j'ai déjà eu des enfants qui étaient battus. C'est voilà, c'est les statistiques aujourd'hui dans une classe, il y en a sur 30, ils disent qu'il y en a 3 au moins qui subissent des violences. Alors, est-ce que c'est des violences physiques? Certainement. Des violences sexuelles, peut-être. Nous, on a 200 enfants les mercredis après-midi et il serait impossible qu'aucun des enfants, malheureusement, qui subit des violences, peut-être des attouchements, etc. Et j'ai des fois aussi, je ne veux pas dire la chance, mais d'être à l'écoute des mamans qui viennent me voir et qui me disent « ça va pas, ouais. Ça va pas à la maison ».
Ouais.
Ça va pas à la maison parce que mon couple il a volé en éclats. Ça va pas à la maison parce que mon fils il est méchant avec moi. Donc là, ouais, il faut que j'intervienne. Je demande l'autorisation. Est-ce que vous voulez que je parle à votre enfant? Donc je prends l'enfant après une séance où je l'appelle et on se voit et je parle de son comportement à la maison, etc. Donc j'essaye d'avoir des mots qui vont percuter chez l'enfant et toujours en soutien de la maman qui est en difficulté. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
C'est vrai que c'est une grosse responsabilité. T'as un vrai travail de médiation, de lien social, du coup.
Ouais. Mais oui, c'est la différence.
Pascal, le grand frère local.
Ouais, un peu. Ouais.
Et c'est important justement de le souligner et d'avoir des gens comme toi qui se préoccupent justement de cette jeunesse. Et nous, ça nous touche aussi. C'est pour ça que t'es autour du plateau aujourd'hui avec ton profil. Donc on va se faire encore un dernier son et on revient tout de suite.
C'est merci, me vêtait à Sassim bevoam Osim bema Oh,
ملك الهوى وقصاني من الفراق الحباب تبالو غابوا عني ولا خبر عنهم يتبان.
On est de retour justement avec un style tout à fait différent. Je te laisse
complètement voilà. Dans un autre univers.
Je te laisse parler de ce morceau.
Ben ce morceau c'est un titre d'un groupe qui s'appelle Gusto en Algérie dans les années 40, 50, 60. C'était un groupe qui était composé de juifs et d'Algériens. Okay. C'est de la musique arabo-andalouse et donc ils passaient dans toute l'Algérie faire des concerts. Ils étaient des maîtres de la musique et ils remplissaient les salles, les mariages, etc. Ça m'a rappelé le livre.
Le livre, justement, au moment des Raoul, justement, ouais. L'arabe et le juif. Et là, on entend justement un arabe et un juif, justement, sur un morceau.
C'est ça, un imam et un rabbin.
Un imam et un rabbin. Et je pense que ça reflète aussi, justement, tout ce partage en fait que tu essayes de transmettre aussi sur ce livre l'arabe et le juif Mohand et Raoul et donc c'est un clin d'œil que tu voulais leur faire
voilà il fallait trouver une musique et comme on allait parler du livre je me suis dit tiens un imam et un rabbin j'ai voulu parler de ces deux hommes là qui finalement chantent l'amitié interreligieuse le vivre ensemble etc et c'est l'objet de j'ai essayé de retranscrire un petit peu cette fidélité cette amitié dans le livre.
Ouais.
Donc voilà, on va peut-être y revenir.
On va y revenir justement. C'est une belle transition. C'est une belle transition. Donc on va se faire une pause musicale et on revient justement pour parler du livre Mohand et Raoul, l'arabe et le juif de Zizek Belkebla.
Trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize.
No, remember when I held you? You begged me with your drowning eyes to stay.
I love you, girl, but I'm out of
Vous êtes toujours sur Focus, on va s'écouter The Weeknd, Out of Time, Fit You Do.
Et on revient tout de suite avec notre invité Zizek Belkebla. Donc on est revenu sur ton parcours. On t'a découvert un petit peu en tant que footballeur, que consultant, que comédien, que beaucoup
que personne
de
aussi.
Mais nous on t'a invité surtout pour que tu puisses nous parler de ton livre, parce qu'en plus de toutes tes facettes, à un moment donné t'as eu envie d'écrire un livre. Bah justement on va un petit peu en parler. Bah tout d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un livre, pourquoi à ce moment, pourquoi maintenant et pas avant ou plus tard.
Comment ça m'est venu en fait, tout à l'heure j'évoquais les discussions, les nombreuses discussions que j'ai eues avec mon père, bon, beaucoup avec ma mère mais aussi beaucoup avec mon père, et il m'avait toujours parlé de sa relation avec dans sa jeunesse avec un pote juif, et il avait un ami qui était juif et qui avait grandi lui au village, alors que mon père était né dans un petit ce qu'on appelle Meshta, un tout petit village à la sortie en général des villes et des grands villages, et il m'avait toujours dit que voilà, il avait un ami juif.
D'accord.
Et tout ça pour nous dire que il avait grandi avec lui et que c'est la guerre qui les a séparés, et qu'il l'avait rencontré dans les champs, à travailler dans une ferme, comme beaucoup de paysans. La Kabylie est composée de paysans, et donc les familles juives n'étaient pas des familles riches et aisées. Tout le monde pense que voilà, les juifs en Algérie, ils avaient. Et donc j'ai voulu écrire ça et expliquer que non, c'est faux. Les juifs étaient là depuis que l'Algérie, et ils étaient pour la plupart des petits gens.
Bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette rupture entre le peuple, enfin en gros entre les musulmans, les juifs, entre les religions et entre les peuples également.
Et pas que en fait, même.
Et pas que, bah on le sait, même à Aubervilliers il y a une école, il y a des écoles juives, je connais pas le terme exact. Et pourtant on n'a jamais eu de lien avec eux, on les connaît pas, on les voit pas. Et c'est dommage parce que comme tu l'expliques si bien, tes parents ou même tes grands-parents ont pu avoir des amitiés avec un juif, et c'est pour ça que tu en parles dans ce livre Mohamed et Raoul. Donc je vais te laisser juste un petit peu le présenter, les personnages en gros, qui sont les personnages principaux, qu'est-ce que ça représente un petit peu l'histoire.
Alors c'est parti d'une histoire d'amitié, une vraie histoire d'amitié entre mon père et son ami juif,
et très touchante
ouais,
en plus.
Et elle s'est terminée comme beaucoup d'histoires en Algérie après 62, quand ils ont dû partir. Mon père s'est retrouvé seul. Donc quand il y a eu l'exil, ils sont partis et ils se sont perdus de vue en 62 en France. Donc après moi j'ai essayé de repartir sur les traces de cet homme, mais je suis parti de trop loin et j'ai voulu essayer un petit peu de repartir sur ce parcours. Et puis après j'ai dû inventer un personnage d'Agathe, parce que je voulais pas que ce soit moi qui raconte l'histoire, je voulais le faire passer par le biais d'un troisième personnage. Et ce troisième personnage, j'ai trouvé que c'était cette petite fille là qui va se retrouver totalement par hasard à aller voir ce vieux Kabyle qu'elle a pas envie d'aller voir au début.
Exactement.
Elle n'a pas que ça à faire, elle est étudiante, etc. Et on va comprendre que finalement elle hérite d'un appartement à Aubervilliers. Et pourquoi c'est elle qui l'hérite et pourquoi pas sa mère. Donc ouais. Et c'est le vieux Kabyle qui va raconter toute l'histoire à cette petite Agathe là, qui va dire mais pourquoi c'est moi qui vais aller voir ce vieux Kabyle alors que l'appartement c'est ma mère qui doit l'hériter, puisque c'est son père qui l'avait acheté. Et on va comprendre qu'il y a une rupture entre son grand-père et sa mère à elle. Et c'est en lisant le livre qu'on va comprendre qu'en Algérie il y avait vraiment des déchirures entre eux. Et donc c'est le vieux Kabyle qui va raconter l'histoire de l'Algérie un petit peu. J'ai pas voulu moi le raconter, l'histoire de l'Algérie, parce que j'y étais pas.
Mais c'est très bien raconté dans le livre, c'est super bien retranscrit, parce que moi j'ai pu le lire et c'est super bien retranscrit. Et on passe d'émotion en émotion, c'est-à-dire que la jeune Agathe aussi qui elle est tout plein d'appréhension sur Aubervilliers, t'arrives à le retranscrire et c'est un peu les préjugés aussi que plein de personnes peuvent avoir aussi de la banlieue, tu vois.
Bien sûr.
Donc c'est vachement fort. Et justement après la rencontre Après, on va pas spoiler tout ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et je profite vraiment à dire aux auditeurs, allez le lire, parce que c'est vraiment touchant. C'est, tu racontes aussi l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la France.
J'ai voulu raconter, un petit peu l'histoire parce que souvent on la connaît pas, les jeunes générations,
exactement,
etc.
Ouais.
Moi-même, hein, je me suis replongé dedans. Moi, je connaissais, j'ai lu, je me suis beaucoup documenté. Mais quand je parlais avec des jeunes de 12 ans, 15 ans, 14 ans, mes enfants, ils connaissent pas l'Algérie.
Ils connaissent
pas l'Algérie, donc, ou alors ce qu'on leur apporte sur un chapitre en cours d'histoire qui dure 2 heures et finalement en 2 heures on peut rien comprendre de l'Algérie ou d'un autre sujet. Et donc, je me suis dit, mais je vais raconter un petit peu. Je suis pas historien, mais j'ai raconté un petit peu l'essentiel de cette fragmentation de l'Algérie en 62.
Et, l'important surtout, je pense, de ce livre, c'est la transmission. Donc, comme toi, tes parents, tes grands-parents ont pu te transmettre leur histoire, au-delà de l'histoire de l'Algérie, leur propre histoire. C'est un petit peu le rôle que Mohand a envers Agathe dans le livre. Il lui transmet toute l'histoire de son grand-père. Grâce à lui, elle aura des souvenirs de son grand-père qu'elle a peu connu. Et ça raconte aussi l'histoire entre l'Algérie, entre Aubervilliers, d'une ville qu'elle connaissait pas du tout, mais auquel elle a quand même un attachement vis-à-vis de son grand-père. Et c'est une belle histoire de transmission, et c'est aussi ça te représente par rapport à ce que tu nous as raconté, ce que tu veux transmettre dans ton travail, dans ton engagement envers les jeunes.
Ouais, tu joues toujours ton rôle d'éducateur cette fois-ci.
Je veux raconter. J'aime pas les gens qui partent d'Aubervilliers. J'aime bien raconter les gens qui viennent à Aubervilliers. Tout le monde veut quitter Aubervilliers ou la banlieue ou peu importe, et on parle jamais de ceux qui veulent y venir. Et donc j'ai voulu raconter que ici il se passe des choses qui peuvent permettre à des gens de venir s'installer. Il y a des gens formidables aujourd'hui. C'est plus facile que dans les années 60 où il y avait rien, on pouvait même pas venir, il y avait pas le métro, il y avait rien. Aujourd'hui en 5 minutes on est à Aubervilliers, en 5 minutes on est à Paris, etc. Donc j'ai voulu raconter Agathe et lui faire découvrir un petit peu la banlieue, le centre social.
Ouais, bienvenue Agathe.
Et il y en a plein des Agathe, heureusement. Ouais.
Et justement dans ce livre, en fait, c'est vraiment comme on dit, une transmission. Et tu parles aussi de vraies choses, de fléaux. Enfin, tu vois, ça veut dire que les parents qui ont quitté l'Algérie pour venir s'installer en France, un vrai combat aussi. Parce que on pensait que la France était l'Eldorado, mais au final, on s'aperçoit que les conditions de vie, c'est assez compliqué. Et aussi le fléau de la drogue des années 80, justement, qui. Donc, comment t'as réussi justement à retracer
tout ça,
toutes ces histoires qui est vachement touchante en plus?
J'avais écrit un livre qui faisait au moins 500 pages.
Ok.
Et donc, quand t'écris sur une cité, évidemment, j'ai loupé de deux côtés. Je peux écrire peut-être encore un autre livre, voire peut-être deux, mais il y avait trop de personnages qui étaient importants pour moi. Les femmes de la cité.
Les femmes
de la cité. J'avais des chapitres sur des femmes de la cité, après, je suis parti un peu sur ce qu'on vit, nous, tous les jours, avec des gens qui s'investissent pour le vivre ensemble, les associations, etc. Mais j'avais perdu le fil de la relation entre Mohand et Raoul et la petite.
Ouais.
Donc, j'ai dû élaguer et mettre de côté. Peut-être que, je vais trouver peut-être la matière pour en faire autre chose.
Peut-être qu'il y aura une suite, en tout cas.
C'est ça. Et aussi, je pense que le fait d'avoir fait un choix de faire un livre qui est plus court, il fait une centaine de pages, ça peut s'adresser aux jeunes, c'est peut-être plus facile. Facile à lire. C'est vrai que nous, à l'école, je me rappelle que les professeurs ont imposé des lectures.
De 300, 400 pages.
Honnêtement, on n'a jamais eu un auteur. En général, c'est des classiques. Et ça peut être aussi une avancée, même en termes de culture à Aubervilliers, qu'un Alberti Villarien puisse proposer son livre en lecture dans les collèges, dans les primaires.
Moi, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit justement pour témoigner, et je voulais que justement il arrive dans les mains des gamins.
Et
9 ans, 10 ans, enfin CM2, déjà on peut commencer à le lire, et bien sûr que c'était important pour moi que 110 pages c'était le maximum, parce qu'on n'a pas le temps, les enfants encore moins, de lire des pavés, et là je voulais que ça percute,
et que
ils lisent ça en une semaine pour un plus jeune,
c'est une histoire qui peut leur parler, qui ressemble peut-être à celle de leurs parents, leurs grands-parents ou de leurs
exactement.
amis.
Mais moi je me suis retrouvé un peu dans ce livre aussi,
c'est ce que je voulais, parce que là c'est comme tout à l'heure je l'ai dit, un arabe, un juif,
mais
en fait ça peut être un malien, un sénégalais,
exactement,
etc. Parce que à partir du moment où vous avez parlé avec vos parents, vous pouvez écrire un livre. Et moi j'ai voulu dire aux gens, mais si moi je l'ai fait, vous pouvez l'écrire, vous pouvez écrire votre histoire. Il y aura sûrement quelque chose à lire et d'émouvant, d'intéressant et de productif.
C'est l'histoire des racines, quelle que soit
bien
l'origine.
Bien sûr.
Et comme je te disais, moi, je me suis retrouvé dans l'histoire. Par rapport aussi à mes parents, par rapport aussi à leur arrivée en France, par rapport, tu vois, à plein de choses. Et mon père me racontait aussi que c'était assez compliqué, que le déchirement aussi de quitter son pays pour arriver dans un pays que tu connais pas. Voilà, c'était des vaillants en fait, tu vois, c'était vraiment des vaillants. Donc maintenant, nous, et même notre jeunesse, on a à peine peur d'aller dans le quartier d'en face ou d'aller sur Paris. Tandis que nous, nos parents, ils ont tout lâché pour arriver dans un pays qu'ils connaissaient pas, tu vois.
Ouais, c'était notre mentalité. Ouais. Je pense que plus personne pourra faire ce que nos parents ont fait. Nous, au bout d'une semaine de ce qu'ils ont vécu, on pleurerait, on serait dépressif, etc.
Mais clairement,
eux, ils l'ont fait pour nous, pour les enfants, pour un avenir, etc. Alors qu'il fallait quitter des pays, des anciennes colonies,
exactement,
pour aller quand même s'installer chez l'ancien colon. Ouais. Faut le faire quand même. Et tu retrouves un petit peu des Français qui t'ont fait la guerre. Et tu te retrouves dans les cités avec des Français qui t'aiment pas.
Je parle de l'époque.
Hein. C'était pas facile d'arriver dans les années 50, 60.
Avec le contexte de la guerre.
Cité,
devoir prouver.
Et oui, que des cités qui ont été construites à la va-vite pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Finalement, tout le monde a vécu dans le même immeuble. Ceux qui ont été chassés.
Ouais.
Et ceux qui sont partis, finalement, ont vécu dans les grandes cités ensemble. C'est ça qui était totalement fou. Ils étaient en Algérie ensemble, ils se sont fait la guerre. Et finalement, ils ont vécu ensemble dans les cités. C'est complètement délirant. Et pourtant, dans les cités, il y a du bon vécu.
Il y a du bon vécu, ouais.
C'est incroyable, les souvenirs que les gens ont de leur cité, de leur enfance, etc., avec tout le monde,
avec le mélange aussi qu'il y avait.
Raisons, bien sûr.
C'est important d'avoir cet éclairage, au-delà de tous les stigmates, de tous les préjugés qu'il peut y avoir sur ces.
Oui, bien évidemment. Et bien évidemment. Et pour en revenir à nos parents, aux grands-parents, etc., d'avoir vécu ça, ce déracinement pour nous, quoi, pour que nous, on soit mieux aujourd'hui.
Et justement, tu rends aussi un peu hommage à tes parents dans ce livre.
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai pas voulu appeler mon père, s'appelle Ahmed Belkebla, et celui-là il s'appelle Mohand. Ouais. Et Mekbel, c'est en fait en Kabylie, quand on a un village qui s'appelle Tout le monde est des Belkebla, c'est souvent le cas. Enfin, tout le monde porte le même nom, il y a une centaine de familles. Et dans la région, on porte le même nom aussi. C'est Mekbel. Donc on sait que les Mekbel sont des descendants des Belkebla. Les Belkebla sont des descendants des Mekbel. Et donc voilà.
Un petit clin d'œil.
Mais en tout cas, voilà, c'est souligné et c'est un beau livre. Et je pense qu'il peut circuler dans tous les collèges et lycées. Et je pense que ça va aussi remettre un peu les choses et les états d'esprit des jeunes un peu dans le droit chemin.
Ouais, j'espère.
Et même, ça va peut-être les inviter à s'intéresser un petit peu plus à leur histoire, à discuter, même à prendre le temps de discuter avec leurs parents,
exactement,
avec leurs grands-parents.
Et justement, par rapport à ça, prendre le temps de discuter avec ses parents, toi qui es éducateur et tu le vois, ça veut dire que tu vois aussi cette fracture. Maintenant, les jeunes ne parlent plus à leurs parents.
Ouais, je pourrais vous raconter des anecdotes au club de foot, même dans la rue, des gamins que j'ai vu grandir et qui vont partir sur une voie qui n'était pas la leur, n'était pas leur destinée au départ. C'est incompréhensible comment cet enfant n'a pu en arriver là. On a volé un premier scooter, ensuite la drogue, ensuite les parcours commissariat, etc. C'est compliqué, décrochage à l'école, arrêt au collège. Donc, c'est dur de...
Toi, tu restes au contact de cette réalité, t'es en première ligne avec tous les gamins que tu côtoies dans le cadre de l'association.
Ouais, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes que je peux pas raconter ici parce que
tu peux les mettre sur un livre.
Ouais, je peux les mettre sur un livre, mais c'est vraiment que c'est difficile pour les gens d'abord. Ils ont pas choisi d'être là. Il y a des parcours de vie qui ont été difficiles pour certains. Il y en a pour qui d'autres, ils ont eu de la chance d'avoir des parents qui étaient là, une famille unie, soudée, etc. Mais il y a dans les familles beaucoup de déchirures.
Ouais.
Et comme dans la famille de Agathe et de sa mère et de Raoul, ils ont eu aussi leurs déchirures. Et ensuite, c'est se reconstruire parce que certains sont brisés comme du verre et il faut reprendre tous les morceaux et les recoller. Et il restera toujours quelques fissures.
C'est
pour ça que c'est important d'avoir des tiers de confiance.
Et pour en revenir avec les jeunes que je côtoie, souvent j'entends au foot, etc. Ah, mais moi, je suis algérien, moi, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, moi, je leur dis, mais on est français. Et Et ensuite, chez toi, si tes parents te disent que t'es algérien, tu l'es. Mais quand on est sur un terrain de foot, on est tous des potes.
Oui, exactement.
Il n'y a pas de couleur. Il y a juste la couleur du maillot. Ouais. Et le reste, rien ne compte. Et donc, j'ai des anecdotes, les gamins, parce qu'ils mentent pas, ils disent la vérité. Et ils répètent souvent ce que disent
les parents.
Et souvent, il y a des parents qui sont mal attentionnés. Et les enfants répètent des bêtises des parents. Donc, je veux voir les parents parce que le petit m'a dit ça, madame, il faut que je vous voie parce que là, on a un problème avec votre fils. Et que ça recommence plus parce que sinon, on ne peut pas continuer comme ça.
C'est exactement ça.
Donc, parce que ça part d'une fracture entre moi, ceci, et lui, il n'est pas comme moi.
Voilà.
Donc, ça, c'est pas normal. On est
et ça, dès le plus jeune âge, en fait, on peut le combattre.
Ça
arrive très tôt.
Et vite, il faut arrêter le saignement avant que, tu vois,
ça se propage.
Exactement.
Et même par rapport à l'actualité, on peut voir des images terribles qui interpellent et qui
portent. En fait, moi, j'ai oublié de vous dire, mais ce livre, je l'ai écrit, j'ai commencé en 2015. Okay. Que j'ai terminé d'écrire 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, et j'avais un pavé. Mais en fait, quand j'ai pris mon ordinateur et que j'ai ouvert pour taper mes premières lignes, on était en 2015, on était les attentats de l'hypercacher.
Ah ouais,
et quand j'ai vu le mec sortir de l'hypercacher, j'ai tout de suite dit, mais comment on a pu en arriver là? Si lui, il l'a fait, d'autres peuvent le faire avant. Il y a vu Mera en 2012. Et en 2015, quand j'ai vu le jeune sortir comme Bonnie and Clyde de là-dedans et se faire tuer, bien évidemment, le mal qu'il a commis, les atrocités qu'il avait commis comme Mera avant. Et là, j'ai pris mon ordinateur et j'ai dit non, je vais raconter ce que mon père m'avait dit, moi. C'est pas possible. Ouais. Je vais agir. Je vais faire moi ce que je sais, ce que j'ai entendu. Mais voilà le début.
La classe. C'est un beau message et c'est pour ça qu'on applaudit. Et c'est un super message et je pense que les jeunes, il faut qu'ils s'inspirent, il faut le lire. Il se lit très bien. Et donc, je voulais te poser justement la question, comment. Le déclic qui se fait que mais tu viens d'y répondre en fait. Comment tu te dis un jour tu vas écrire un livre? Justement, toi, c'était les attentats qui t'ont mis.
Ouais, moi j'étais en 2015 avec mes enfants au Stade de France. Déjà, j'ai vécu un traumatisme. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. On a couru sur la pelouse, j'ai fait tomber ma fille, on allait se faire piétiner, etc.
Exact.
Je suis rentré bouleversé à la maison. J'ai pleuré, j'ai craqué. J'ai dit putain, s'il fallait en lâcher un.
Non, mais c'est...
J'ai eu un moment ce truc là qui m'a fracassé. J'ai dit mais s'il avait fallu en lâcher un.
Ouais,
c'est traumatisant.
Les gens arrivent à fond, ils te piétinent. Et là, j'ai dit non, mais voilà. Tout m'est remonté, en fait, la discussion de mon père. J'avais envie de tout vomir. Et finalement, ça a donné ça. Mmh. Après, moi, je pensais jamais que j'allais plus écrire. Hein, voilà, je suis parti d'une feuille. Ensuite, on écrit tellement qu'on oublie qu'on commence à 8 heures. Et à 18 heures, on est encore en train d'écrire. On oublie d'aller chercher les enfants à l'école.
C'est une forme de thérapie aussi.
Mais je comprends les gens quand ils disent ouais, mais moi j'ai besoin de partir à la campagne, m'isoler pour écrire. Mais c'est incroyable. C'est aussi peut-être une forme de thérapie. Moi, j'avais envie de la faire. Peut-être que je vais mieux maintenant parce que voilà, j'ai sorti quelque chose qui me gênait en moi.
Ouais.
Et ça a donné ce livre. Et voilà.
Un beau livre.
En tout cas, merci d'avoir présenté ton livre. Donc c'est publié par les éditions du Bon Temps. On peut le retrouver un petit peu partout, j'imagine, en librairie. Tu en fais peut-être la promotion aussi sur des réseaux sociaux.
Dans les éditions du bontemps.com. Déjà, il y a plein d'informations sur moi. C'est un site internet qu'on a fait avec un ami. Et la boîte d'édition aussi, c'est un pote et moi qui l'avons monté. Et peut-être qu'un jour, on va éditer, je l'espère, des jeunes écrivains.
Exactement. Et justement, là, c'est le livre. Tu commences à écrire. C'est un livre qui... Est-ce qu'il peut pas, justement, on peut pas le retrouver dans le grand écran, tu vois? Il y a pas... Pour toi, l'ambition, après, c'est quoi?
Ouais, au début, quand j'écris, je savais pas que j'allais être capable d'écrire ce récit-là. Au début, j'avais commencé à écrire des scènes pour en faire une pièce de théâtre.
D'accord.
J'imaginais un vieux Kabyle sur une scène, beau Kabyle avec des beaux cheveux blancs, etc. Ouais. Et une belle jeune fille qui va venir avec sur une scène, c'est tout. Et finalement, je pense qu'avec du travail, on peut faire facilement un scénario et un scénario de film. Et puis après, on verra comment il va voyager. Maintenant, il m'appartient plus.
C'est vrai.
Moi, ça y est, j'ai fait ma part. Et voilà.
Maintenant, c'est aux auditeurs de le découvrir.
C'est ça.
En tout cas, beau livre. On se fait une pause musicale et on revient tout de suite avec Zizek Belkebla.
Again, I testify for you. I thought I like you, that bitch. I do it all and I'm around. You're scared to do it. I'm not. As long as you joking, now here for me. I ain't got it. My bitch, scheming, looting. Hide your bodies. long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You're just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just snooze and miss the moment. You're just too important. Nobody do body like you do In a drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Are they growing when you're not here? I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do.
Vous êtes toujours sur Focus, on va écouter Snooze de SZA.
Exactement, Focus, tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM, avec notre invité Zizek Belkebla. Un honneur de t'avoir autour du plateau. Et multicasquette, footballeur, écrivain, comédien, acteur, consultant.
On a fait un petit peu le tour de ta carrière. On aimerait savoir un petit peu quels sont tes projets pour l'avenir. Tu nous as dit que tu nous as un petit peu parlé du livre, pourquoi pas l'adapter, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et hormis le livre, peut-être que tu as l'ambition d'en faire un autre ou de faire complètement autre chose, de toucher à autre chose.
Ouais, après comment il va être reçu par la critique, par les gens, etc. Peut-être que je vais faire des belles rencontres. Et en fait, dans la vie, c'est ça, c'est de voyager. C'est pas le chemin, le cheminement, le voyage. C'est avec qui tu vas le faire. Et si j'ai la chance de faire la belle rencontre, eh ben peut-être que ça aboutira sur un autre projet. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, c'est-à-dire que j'avais pas de plan de carrière. Et donc je vis de rencontres et
de belles rencontres. Ouais. Et justement, c'est ce qui est un peu qui t'a un peu suivi du foot jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est des rencontres qui ont fait que t'as été consultant, que t'as été comédien. Et là, c'était une rencontre aussi avec toi-même, justement, pour être écrivain. Peut-être que...
Ouais, et puis moi, ce qui me tenait à cœur aussi, moi, je suis très sensible à la fidélité, ouais. En amitié, et en amour aussi, mais en amitié, j'aime les gens qui m'aiment. Et voilà, donc...
Et tu le rends bien en retour.
Ouais, en fait, il faut avoir la chance d'être dans la vie accompagné de gens qui sont là avec toi dans des moments où c'est compliqué, où c'est pas compliqué, mais au moins, t'as toujours du plaisir de aller voir. Et donc, peut-être que je vais faire d'autres rencontres. J'espère pas des mauvaises, parce qu'on fait tous des mauvaises rencontres. À un moment, c'est bien. Il faut aussi se tromper et se casser la gueule. Mais c'est ce qui nous permet de comprendre après, quand on a rencontré des vraies personnes, de savoir que c'est les bonnes.
Voilà. En tout cas, nous, on est là. C'est une belle rencontre qu'on fait aujourd'hui à la radio. Donc, merci, Zizek.
Ouais, non, mais merci à toi, Sidien. Je sais que toi aussi, t'es sensible et je t'ai dédicacé le livre et ton engagement, tout ce que tu fais pour la ville. T'es beaucoup plus jeune que moi et souvent, je le dis, c'est vous aussi la relève, parce que moi, je suis pas vieux non plus, mais quand je vois mes frères qui ont une soixantaine bientôt, la soixantaine, ça passe très vite, la vie.
C'est pour ça qu'il faut.
On est content d'avoir derrière quand on se retourne et qu'on voit que derrière, il y a de la force.
Il y a
une transmission.
Oui. Et puis, c'est top, quoi, parce que seul, on peut pas tout le temps, on n'est pas toujours au sommet de sa force, de son énergie, de sa production. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des gens qui derrière voilà vont prendre ont déjà pris même le relais, sont même en avance sur les temps de passage par rapport à nous, hein. Sidi, il est
on essaye d'avancer, mais bah parce qu'on a été bien entouré et bien on a eu une bonne influence aussi avec nos aînés, et puis même l'équipe de la radio, ça veut dire que tout seul, comme tu dis, on n'avance pas, et là on est entouré de personnes justement qui veulent aller dans le même sens que nous.
Ouais.
Et donc c'est le but ouais. de la radio.
Et moi je suis content de faire ma première radio avec vous parce que je vais en faire d'autres.
Ouais,
et
bah,
j'ai tenu, j'ai voulu que que ce soit Aubert le premier, la première rencontre du
Exactement.
Du livre, et ben elle sera Aubert parce que c'est important pour moi que ce soit Aubert.
L'histoire elle est née ici.
Et voilà, c'est l'histoire d'ici. La radio,
c'est une radio d'Aubert.
Donc maintenant je peux aller où vous voulez.
Voilà. En tout cas j'espère que le livre va bien voyager. En tout cas c'est une bouffée d'air. C'est voilà. Donc
merci
pour ce livre. Merci pour avoir accepté l'invitation. Merci à toute l'équipe. Et justement, un petit mot de la fin pour toute notre jeunesse, ou toi, on te laisse finir.
Ben moi, je veux dire à tout le monde que voilà, il faut, malgré les blessures, malgré les fêlures, malgré les personnes qui n'ont jamais cru en nous, qui nous ont dit du mal, qui nous font du mal, c'est peut-être eux les plus malheureux. Et s'ils vous disent autant de mal, c'est parce que finalement c'est quelque chose qu'ils n'ont pas la force de dire des belles choses. Ils n'ont pas cette énergie, et il faut croire en soi et tracer sa route et se protéger des mauvaises rencontres, et ouais, toujours être optimiste et ouvert sur la société, sur les dans tous les domaines, que ce soit religieux, que ce soit voilà, il faut être ouvert dans l'esprit et pas
fermé,
pas cloisonné, voilà.
Ah, très beau message de conclusion.
Merci Zizek Belkebla pour son livre Mohand et Raoul, l'arabe et le juif. Merci à toute l'équipe de Tous Ensemble, Jamal, Olivier, Farah, Ryan aussi, hein, qui est là. Et une petite dédicace aussi à Melik. Jam.
Tous Ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM. Focus. Focus.
98 FM.